Chapitre 12. Issu de Dieu. Christ est aussi désigné comme étant le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3:14. Adam était un fils que Dieu avait créé, alors que Christ est un fils engendré. Note du traducteur. Selon Scofield, la traduction littérale de Jean 1:18 parlant du Fils unique devrait être rendue par « le Dieu seul engendré ». Adam avait été créé à l'image de Dieu en tant que créature. Christ était l'image de la nature même de Dieu. Adam avait la même forme que l'éternel Dieu, Elohim Yahweh. Cependant, il ne possédait pas la substance de Dieu, sa nature. Adam n'était pas sorti de Dieu, mais il avait au contraire été créé par lui. Cependant, Dieu voulait des fils et des filles qui soient sortis de lui, qui est sa substance, qui manifeste sa nature. Jésus, le seul fils engendré, est issu de Dieu, et c'est avec lui le premier-né que la race divine des fils de Dieu a commencé. Yahweh était Dieu lui-même. Il était le « Je suis », celui qui est éternellement, le Logos, celui qui agit et qui ensuite est devenu un homme. Ce que la plupart des théologiens ont négligé de voir, et qui est à proprement parler le cœur de la chose, c'est que de même que Yahweh est sorti de la plénitude originelle de Dieu, ainsi le Fils, qui est Yahweh lui-même, est sorti du Père. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, je procède de Dieu et je viens de lui. Jean 8, 42. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, je suis sorti d'auprès de Dieu. Jean 16, 27. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Jean 17, 8. Quand ce mystère eut été révélé aux disciples, ceux-ci dirent, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jean 16, 30. Toujours dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il s'agit du même Seigneur. Là, dans un corps spirituel, ici, dans un corps charnel. Il ne s'agit pas d'un Fils de Dieu qui aurait existé en tant que tel auprès de Dieu, puis serait devenu un Fils de Dieu sur la terre. Il ne pourrait y avoir quelque chose d'aussi paradoxal. Jésus est sorti de Dieu. Il a été engendré en tant que Fils par l'Esprit, et il est de la même essence que Dieu. Il avait la vie de Dieu en lui, car il était Dieu lui-même. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu, et il ne pouvait engendrer qu'à sa manière. C'est au travers de lui que tous les fils et filles de Dieu participent à la nature divine. 2 Pierre 1:4. La théologie cherche principalement à définir la relation entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Saint-Esprit, de telle sorte que chacun d'eux est opposé à l'autre. Il est inconcevable que cela puisse avoir un sens quelconque. Que la philosophie vienne encore s'ajouter à la théologie, il en découle un cercle magique dont ceux qui s'y trouvent enfermés ne peuvent plus s'échapper. Mais la théologie biblique consiste en la réalisation du plan de salut éternel de Dieu à l'égard de l'humanité par le moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne s'agit pas de la clarification de la révélation de Dieu nécessaire à chacun pour recevoir le salut, mais bien de la clarification des relations que Dieu veut avoir avec nous. Qu'est-il pour nous? Et comment nous comportons-nous à son égard? C'est là le point essentiel. Dieu a clarifié ses relations avec l'humanité. La doctrine de ce que l'on appelle la confession de foi de Nicée est tout simplement non biblique. Il y est écrit « Seul Fils de Dieu qui est né du Père avant le monde entier, Dieu venant de Dieu, lumière de la lumière, véritable Dieu, né du véritable Dieu qui n'a pas été créé. » F. Haus, Väter der Christenheit, page 40. Là, on prétend que le Père aurait, dans le ciel, enfanté le Fils. Comment peut-on se représenter cela? Où, dans les Saintes Écritures, peut-on trouver, même par allusion, le témoignage d'une telle pensée? Par l'Esprit, le Père a engendré le Fils sur terre, Matthieu 1. Et c'est ainsi qu'il a agi pour commencer une nouvelle race divine. Quant à son esprit, Jésus était fils de Dieu. Quant à la chair, il était homme. Et cela afin de pouvoir transposer l'humanité dans la position divine. Il devait être un homme afin de pouvoir mourir. Et il devait être Dieu pour vaincre la mort, le séjour des morts et le diable. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3:16. Paul n'a pas le moins du monde jugé utile de donner d'explications au sujet de ce grand mystère. Cette constatation lui suffisait. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3:16. La procréation du Fils n'a pas eu lieu dans l'éternité. Et pas davantage pendant la durée de l'Ancien Testament, mais bien avec toute la précision souhaitable de la manière claire et nette décrite dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'expression « aujourd'hui » a été utilisée dans la promesse du psaume 2. Tout ce qui, dans l'Ancien Testament, était contenu dans la prophétie, était encore en ce temps-là à venir. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous en trouvons l'accomplissement. Ce n'est pas par hasard que le terme « décret de Dieu » est utilisé dans le passage suivant. « Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Psaume 2:7. En rapport avec cette parole, nous lisons ce qui suit dans Hébreux 1:5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré ». Dans l'Épître aux Hébreux, cet « aujourd'hui » a été annoncé et placé devant nos yeux comme étant un jour particulier. Encore une fois, il détermine un certain jour, disant, en David, si longtemps après, « Aujourd'hui !» Hébreux 4:7. Cet « aujourd'hui » est le jour du salut. Car il dit, « Au temps agréé, je t'ai exaucé, et en un jour de salut, je t'ai secouru. » Voici c'est maintenant le temps agréable. Voici c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2, Ésaïe 49:8. L'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte l'exemple des croyants de l'Ancienne Alliance qui ne crurent pas, et il donne un avertissement au lecteur de cette épître par ces mots. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit « aujourd'hui », afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3.13. Pendant tout le temps de la grâce qui s'étend de la venue épiphanie de Christ jusqu'au temps de son retour, parousie, nous vivons dans le jour du salut, dans le « aujourd'hui » du Nouveau Testament. Dans Romains 1, 3, 4, nous lisons ceci au sujet du Fils. « La semence de David selon la chair, déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » La résurrection est la preuve triomphale que Jésus est le Fils promis et que le psaume 2 s'est accompli de cette manière. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus, comme aussi il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Actes 13, 32 et 33. Lorsque l'ange Gabriel apporta à Marie le message divin du Messie promis, elle lui dit « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange, répondant, lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Luc 1, 34, 35. D'après le témoignage des Saintes Écritures, ce n'est pas Dieu, mais bien Marie qui a enfanté le Fils. Marie ne nous est pas présentée dans la Bible pour être honorée et admirée, mais par son exemple, Dieu nous montre qu'aucun homme n'a affaire avec la création divine. Le Fils de l'homme, Jésus, était d'origine entièrement divine. Marie était seulement la porteuse naturelle d'une substance divine qui avait été procréée par un processus tout à fait surnaturel. Aucun acte religieux ne peut remplacer l'action de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 1, 20. « Car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. » À l'évidence, il ressort de ceci que le Saint-Esprit n'est pas une personne en soi, mais qu'il est bien l'Esprit de Dieu, car Jésus n'est jamais appelé « Fils du Saint-Esprit », quoiqu'il ait été conçu par l'Esprit, mais bien « Fils de Dieu ». Il est dit au verset 22 qu'il s'agit ici de l'accomplissement de la parole annoncée par Dieu au travers du prophète Ésaïe. « Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. » Ésaïe 7, 14. En rapport avec le Fils, il nous est dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de la terre. » Psaume 2, 8. C'est uniquement par le fait que le Père s'est révélé dans le Fils et qu'il devint ainsi notre Sauveur que nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi la foi dans le Fils de Dieu est l'absolue et seule condition pour être sauvé. Ce n'est que là où Dieu se réconcilia avec l'humanité, c'est-à-dire en Christ, que cesse la colère de Dieu. la foi dans le Fils est uniquement et simultanément la foi dans le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2:23. Celui qui nie la divinité du Fils n'a pas Dieu pour Père. D'un même souffle, le psalmiste parle de Yahweh et du Fils. Servez l'Éternel, Yahweh, avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, 11-12. La foi dans le Fils est nécessaire au salut, car ce n'est pas en tant que Père, mais bien dans le Fils, que Dieu nous a apporté le salut. C'est pourquoi il est écrit « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3:36. Dieu ne nous donne pas un enseignement sur lui-même, mais il se révèle de diverses manières. Les formulations dogmatiques du IVe siècle à l'égard du Fils de Dieu ne sont que des produits de l'imagination humaine. Pour les uns, il était un Dieu engendré. Pour les autres, un Dieu créé. Pour d'autres encore, un Dieu né de Dieu. Et tout cela doit avoir eu lieu avant tous les temps, c'est-à-dire dans l'éternité. À quoi pourrait bien nous servir un Dieu engendré, créé ou né de Dieu? Mais un tel Dieu n'existe pas. L'engendrement se rapporte au Fils. Tel est le clair témoignage des Écritures. Et ce Fils est le seul Fils engendré qui provienne entièrement de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu et de Marie, mais bien uniquement le Fils seul engendré de Dieu. Beaucoup de théologiens pensent, en prenant en considération la génétique moderne, qu'un ovule de Marie aurait été divinement fécondé par le moyen du Saint-Esprit. Mais il est certain qu'alors, la nature pécheresse venant des chromosomes de l'ovule aurait influencé la structure génétique divine et de nouveau, un mélange aurait eu lieu. C'est donc exclu. Seul engendré signifie que tout, y compris l'ovule, tire son origine de Dieu. Le caractère prophétique de l'Ancien Testament, en paroles, en images ou en paraboles, est de voir et de faire connaître à l'avance une révélation dont la réalisation est encore à venir. Dans le témoignage de l'Ancien Testament, il s'agissait du noyau des paroles dites en tant que témoignage des choses qui devaient être dites. Hébreux 3:5. Les prophètes, parlant par l'Esprit de Dieu, regardaient vers l'avenir. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses. 1 Pierre 1:12. Depuis que celui qui parlait et agissait est devenu lui-même un homme, nous avons affaire à une révélation de Dieu personnalisée en Christ, réalisée et parvenue à son plein accomplissement. Les prophètes ont dit à l'avance ce qui allait arriver, et les apôtres, eux, ont rendu témoignage que la chose était arrivée. Celui qui avait été annoncé par la publication de la parole révélée est donc apparu, et en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Colossiens 2:9. Comment des paroles de révélation divine ont-elles pu être transformées en doctrines humaines? Et la si majestueuse révélation divine de Christ être interprétée en philosophie trinitaire? Ce sont là des choses tout à fait incompréhensibles. Le professeur Émile Brunner a écrit à cet égard: de la même manière, la notion de trois personnes est également plus que douteuse. Déjà, Augustin l'a ressenti, voir De Trinitate, volume 9. Il semble que Karl Barth partage cette réflexion, Kirchliche Dogmatik, volume 1, page 703. On peut bien commander à la pensée: tu dois penser à ces trois personnes comme étant pourtant une seule. Cela ne sert à rien. Il reste qu'il y a un tangage douteux entre le trinitéisme et le monothéisme. Non seulement la notion de la substance, mais encore la notion de cette personne était beaucoup trop rigide pour saisir le mystère de l'unité entre ce qui paraît évident et ce qui est révélé. Il s'ensuit qu'on a placé trois personnes l'une à côté de l'autre à tel point que l'on n'a plus compris la pensée de l'histoire du salut. On se préoccupait de l'arrière-plan transcendantal de la révélation qui nous avait été donnée et l'on a fait de cette vie trinitaire intérieure l'objet principal de la réflexion. C'est cela qui est profondément anti-biblique dans la doctrine trinitaire de l'Église. E. Brunner, Dogmatique, volume 1, page 243-244. Les prophètes et les apôtres n'ont jamais connu de Trinité, et c'est pourquoi la formule d'un Dieu triple ne se trouve pas une seule fois dans la Bible. Comment trois personnes qui se sont unies pourraient-elles, après cela, n'être qu'un seul Dieu? On ne peut réellement qualifier cela que de doctrine étrangère à la Bible, de doctrine païenne. Le seul Dieu vrai et éternel qui ait jamais existé, qui est et qui sera éternellement, s'est fait connaître d'une triple manière: dans le ciel comme Père, sur la terre comme le Fils, et dans les croyants par le Saint-Esprit. C'est le témoignage des Saintes Écritures. Les prophètes et les apôtres ont fait une expérience avec Dieu. Ils l'ont entendu, vu et connu. Et comme il s'est révélé à eux, c'est ainsi qu'ils l'ont annoncé. Les théologiens ont dénaturé Dieu. Et d'un, ils en ont fait trois. L'écrasante majorité des théologiens admettent que la Bible ne connaît pas la doctrine de la Trinité. Mais malgré cela, ils la soutiennent. Comment une telle chose est-elle possible? Ce que le Seigneur a dit reste à jamais vrai. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils voudra le révéler. Matthieu 11, 27.